Donc, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Nous allons nous arrêter là. Et la première chose que nous voulons retirer de ce passage, la première leçon, eh bien, c'est que nous devons nous rappeler que après que cette force qui a été manifestée dans cette marche quotidienne, dans ce ministère, eh bien, ça ne vient pas de nous. Hein, si Élie a pu être sur le mont Carmel ce qu'il était, c'était un homme qui a manifesté une grande assurance, une grande confiance et grande force. Mais nous devons nous souvenir que si nous avons cette force en nous, eh bien, ce n'est pas parce que nous pouvons la générer. Hein. L'origine de cette force n'est pas en nous. Et ce qui est arrivé, c'est que, eh bien, après ce grand jour sur le mont Carmel, où Élie a démontré du courage en se tenant seul, avec les 950 prophètes d'un côté, hein, les 450 de Baal et les 400 d'Astarté, d'un côté, puis un peuple sceptique de l'autre côté, et lui tout seul, comme ça, le seul qui faisait appel à Dieu, eh bien, il avait manifesté un grand courage, une grande force. Mais il a suffi, à la fin de la journée, d'avoir une menace de la part de Jézabel pour qu'il soit envahi par la panique. Hein, en fait, ce qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est qu'à la fin de la journée, il était vidé. Il était vidé de toute force et qu'il avait besoin d'être rechargé, hein, vidé de cette force. Et nous arrive aussi parfois, dans notre marche quotidienne, nous sommes là et je dis, mais Seigneur, il y avait un temps où j'avais plein de force, de courage, j'étais zélé, tout ça. Et puis là, maintenant, j'ai l'impression que je suis à plat. Et oui, mais c'est parce que cette force n'est pas générée par nous, c'est pas parce que je la veux, parce que j'en fais appel en moi que je vais l'avoir. Mais il faut, quand la batterie est plate, il faut se rebrancher sur le secteur. Hein. Et j'ai besoin de... Et parfois, ce qui arrive, des fois, on se sent fort qu'on commence à négliger notre relation avec le Seigneur et on ne lit plus comme avant et on ne prie plus comme avant. Et puis, la force diminue. Tout d'un coup, on dit la moindre chose, eh bien, nous renverse. Et Élie, c'était un homme de même nature que nous. Et le Seigneur lui avait donné la force pour le mont Carmel. Mais après, il était vidé, il avait besoin de retrouver des forces, de faire appel au Seigneur. Et là, parce qu'il n'avait plus rien en lui, eh bien, il suffit que Jézabel le menace et il est pris de panique. Il est vrai qu'elle pouvait ordonner la mort d'un innocent sans scrupule. Hein. Il suffit de voir lire le chapitre 21 et de voir ce qu'elle fait de Naboth. Mais vous savez, cette capacité, de cette force, bien le Seigneur en a parlé à ses disciples dans la chambre haute. Si vous vous souvenez, eh bien, en Matthieu 26, c'est Pierre qui dit... Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. Il dit, moi, même si tous les autres t'abandonnent, moi, tu peux compter sur moi. Et il avait cette confiance en lui. Et puis quelques heures plus tard, Jésus est avec ses disciples dans le jardin de Gethsémané. Et il avertit ses disciples, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est dans Matthieu 26. Et qu'est-ce qu'on voit ? Après le jardin de Gethsémané, quelques heures plus tard, eh bien, Pierre, celui qui a dit, même si tous abandonnent, moi je serai là, eh bien, c'est lui qui, avec serment, dit, je ne connais pas cet homme. Il comptait sur lui-même. Il comptait sur sa volonté. Bon, c'était un homme de volonté, c'est sûr. Hein, c'était un gars qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Mais quand il s'agissait de se tenir debout spirituellement, eh ben, ce qu'il avait de naturel était insuffisant. Et ce n'est pas parce que je veux, ce n'est pas parce que je suis déterminé, ce n'est pas parce que j'ai fait une promesse un jour que je vais tenir debout, c'est parce que j'entretiens mon état, ma relation avec le Seigneur. Et le Seigneur a dit, il dit, la chair est faible. La chair ne peut pas pourvoir cette force-là. L'esprit bien disposé, tu peux vouloir, mais si, s'il n'y a pas. Hein, c'est, dans un sens, on pourrait dire que quand la batterie est à plat, eh ben, la lampe ne peut plus briller. Et quand elle ne brille plus, ben, les ténèbres envahissent. Il n'y a pas de mystère. Hein, on l'a tous vécu. Et puis c'est ce qui est vrai dans le monde physique, eh bien, est vrai dans le monde spirituel aussi. Hein, quand les forces que le Seigneur nous donne, eh bien, ne sont plus là, hein, genre, je ne fais pas appel, je ne me branche pas au ciel, eh bien, je vais me trouver sans force et je ne pourrai pas résister à une tentation. Et après, on est étonné avec que pour un rien du tout, eh bien, on est trébuché, il suffit que quelqu'un dise une parole et puis on perd toute notre sanctification, il suffit qu'on soit tenté par quelque chose et puis on est parti et on se demande pourquoi. Et Seigneur, bon, tu avais promis d'être avec moi, oui, j'ai promis d'être avec toi, mais toi, est-ce que tu as été avec moi ? Et n'oublions pas de nous reconnecter avec Dieu, la source de notre force, pour ne pas être pris au dépourvu, comme peut-être vous connaissez la parabole des 10 vierges que Jésus a racontée, et il y avait 5 folles qui n'avaient pas prévu de l'huile pour leur lampe, et quand ils en avaient besoin, eh ben, il n'y en avait plus. Hein, donc nous devons, hein, c'est pas parce que j'ai une bonne intention que ça marche. Et Élie voulait être fidèle au Seigneur, mais là il s'est retrouvé sans force. Et il n'a pas pu résister à la panique. Et ce qui est arrivé à Élie peut nous arriver si nous ne restons pas focalisés sur les promesses du Seigneur. Vous savez, tout d'un coup, Élie, au lieu de se souvenir de ce que Dieu avait promis, eh bien, tout d'un coup, dans sa tête, il n'y avait que l'écho de Jézabel, ce qu'elle avait dit. Hein. Elle avait dit... Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et ça tournait dans sa tête, et ça l'a mis dans une panique, et il n'a pas su se ressaisir, et en fait, vous savez, la menace de Jézabel, bon, elle peut paraître dure et effrayante, mais... remarquez qu'elle dit, elle ne prend pas de risque, hein, elle dit que tous les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Mais les dieux qui n'existent pas, ils ne peuvent pas faire grand-chose, hein, ils ne sont pas dangereux. Hein, donc elle ne risque rien. Et finalement, ce n'est pas que sa parole a du pouvoir. La force de Jézabel, à ce moment-là, c'était la faiblesse de Élie. C'était la faiblesse d'Élie qui a donné de la force à la parole de Jézabel. Et lorsque nous, parfois, nous pouvons être là, la parole de Dieu est cette puissance dont nous avons besoin, mais si nous ne l'avons pas, et donc nous sommes dépourvus, et puis il suffit que quelqu'un dise quelque chose, qu'un scientifique dise quelque chose, et tout d'un coup on est ébranlé dans notre foi, parce qu'on n'est pas prêt. plutôt que de focaliser, et on pourrait dire à Élie, plutôt que de focaliser sur la parole de Jézabel et la menace de Jézabel, eh bien, il aurait dû mettre son attention sur les promesses qui viennent de la parole vivifiante de Dieu. Hein, et c'est important pour nous aussi, hein, chaque jour, hein, de prendre ce temps dans la parole de Dieu, de lire, de relire les promesses de Dieu, de les méditer. Hein, David disait « je médite ». Et lui qui avait été berger et qui savait ce que c'était des brebis qui ruminent, ben c'est cette image-là de brebis qui consomme, puis ensuite qui rumine pour extraire tout ce qu'il y a dans cette nourriture. Et nous devons faire la même chose, méditer la parole de Dieu. Et là, Élie, imaginez tout d'un coup, Élie, pris de panique, il commence à courir comme s'il y avait un fauve derrière lui. Et imaginez le pauvre serviteur, le serviteur qu'il avait, le pauvre serviteur qui doit courir au qui, comme il n'a jamais couru de sa vie, rien que parce que le prophète, le maître, pour rester avec le maître. Et il dit, mais moi, je comprends rien. Le prophète, là, puis tout d'un coup, c'est comme si... Et moi, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui se passe? Et vous savez, quand moi, je faiblis dans ma foi, eh bien, je crée le trouble chez d'autres. Hein, et quand je n'entretiens pas ma foi, eh bien, ça peut semer du doute chez les autres. Et nous devons faire très attention. Et plus le chrétien est ancien, plus il est mature, plus ça crée du trouble chez d'autres. Et ils sont secoués dans leur foi. Et nous devons faire très attention. Et c'est important d'entretenir ce serviteur qui, lui, le premier, avait été le témoin de cette nuée qui s'est levée de la mer quand le prophète priait. Lui qui avait vu ça, quelque chose de puissant, d'extraordinaire. Et là, il voit ce même maître et il dit, ben, je ne le reconnais plus. Et puis en plus, là, après une journée de course, là, Élie, eh bien, il lâche son serviteur et dit, écoute, pars, je n'ai plus besoin de toi. Imaginez ce qui arrive. C'est des choses qui peuvent arriver. Et là, on n'est pas en train de critiquer Élie. On est en train de tirer des leçons de la vie d'Élie, parce que ça peut ressembler beaucoup à notre vie aussi. Et Élie, après une journée de course, le lendemain, il se lève, hein, et il repart encore. Hein, on a vu ça, il se lève et puis il court encore jusqu'à Beersheba. Donc Beersheba, c'est tout à fait au sud de Judée. Donc il a traversé tout le royaume d'Akab, il a traversé toute la Judée, et puis il est tout à fait au sud. Hein. Et effrayé par un ennemi qui n'existe que dans sa pensée. Il n'y a personne qui le court derrière. Hein, il y a tout d'un coup se développe une schizophrénie là. Il voit sa vie menacée, il voit quelqu'un qui le poursuit alors qu'il n'y a personne. Et pour voir jusqu'à quel état il est arrivé, et c'est parce qu'il a complètement perdu de vue le Seigneur. Celui qui avait, comme on a vu dans le chapitre 17, celui qui avait pourvu, celui qui l'avait caché pendant 3 ans et demi, où Akab n'arrivait pas à le trouver, tout d'un coup, lui, il oublie tout cela. Et c'est comme si Dieu n'avait jamais rien fait pour lui. C'est étonnant, mais c'est réel, on peut arriver jusqu'à ce point-là. Et la première fois qu'il prie, eh bien, c'est pour dire Dieu, donne-moi la mort. Hein, c'est ça qu'on voit au verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et s'endormit, tout à fait les signes d'une forte dépression. Il est là, et vous voyez jusqu'à quel point il tombe, pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas eu l'entretien. Et vous savez, n'importe lequel d'entre nous, il est l'homme, un homme de même nature que nous. Et il dit, Seigneur, je suis déçu par moi-même, je sais que tu es déçu par moi, je suis bon à rien, je sais rien, écoute, laisse-moi mourir. Vous, les pensées comme ça peuvent arriver, hein, peut-être que c'est déjà arrivé, d'avoir de telles pensées, d'arriver dans un tel état où on a dit j'en peux plus, je sais plus, j'ai gâché ma vie, je ne peux plus rien faire, tout est terminé. Eh bien, remarquez comment le Seigneur répond. Hein, Élie dit laisse-moi mourir. Et comment est-ce que le Seigneur répond? Eh bien, regardez verset 6. Déjà, verset 5, il se coucha et s'endormit. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit et des pierres chauffées, sur des pierres chauffées, et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. Comment est-ce que le Seigneur répond à... Lui, il dit, oh, laisse-moi mourir, ça y est, je suis bon à rien, j'ai raté ma vie, j'ai gâché. Voilà, laisse-moi partir. Eh bien, Dieu répond non pas en critiquant, mais Dieu répond en pourvoyant de la nourriture, en pourvoyant de l'eau. Il envoie un ange, certainement un ange qui ressemblait à un homme. Hein. C'est ça qu'on voit toujours dans l'Ancien Testament. Hein. L'ange apparaît comme sous forme humaine. Et quelqu'un qui pourvoit. Et lui, il s'endort. Et puis après un moment, eh bien, il le réveille encore une fois. Et verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et il mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Donc là, Dieu, au lieu, vous savez, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu pourvoit. Il est toujours, lui, dans cette direction de pouvoir courir plus loin. Dieu l'accompagne, Dieu est toujours là, Dieu l'a suivi, Dieu ne l'a pas oublié. C'est pas parce que lui ne pensait plus à Dieu que Dieu ne pensait plus à lui. Et Dieu est là, il le suit, il se couche, l'ange est là, il pourvoit la nourriture. Et c'est pas quand quelqu'un est par terre qu'on lui fait la morale. Hein? Et Dieu ne va pas lui dire, ouais, qu'est-ce que c'est que ça, drôle de prophète, avec tout ce que tu as fait, tout ce qu'il a montré, ouais, la honte, et ce qu'il y a, un Carmel, et puis, vous savez, si Dieu était un homme, qu'est-ce qu'il lui aurait dit, hein? On a été plus dur que ça, avec les autres. Mais là, Dieu ne dit rien, et le Seigneur le relève, le Seigneur le nourrit, le Seigneur lui donne de l'eau, il intervient, il commence par le physique. C'est pas étonnant. C'est un Dieu extraordinaire. Hein. C'est pas étonnant que dans le Nouveau Testament, il est appelé Père. Hein, parce qu'il se comporte comme un Père. Et il vient, il prend soin de lui. Et ensuite, il lui parle. C'est une fois qu'il va mieux, une fois qu'il est. C'est là où Dieu va lui parler. Et donc, ce sera à partir du verset 29, quand Élie arrive à Horeb, eh bien, il rentre dans une caverne, il passe la nuit. Il n'est pas sorti de son état, hein, et c'est très imagé, le fait qu'il soit dans une caverne, dans une grotte, hein, c'est un peu le sentiment, ce qu'on ressent quand on est dans une forte dépression, c'est être au fond d'un trou, et donc c'est tout à fait là. Mais revenons aux paroles de Jacques. Jacques, au chapitre 5, et verset 21, il disait que Élie était un homme de même nature que nous. Et cette expression, un homme de même nature que nous, eh bien, c'est une expression qu'on trouve une autre fois, une seule autre fois, dans la Bible, et c'est dans les Actes des Apôtres. Et c'est quand Paul et Barnabas arrivent à Lystre, et en arrivant à l'entrée du village, ils trouvent un homme qui est là, qui est boiteux depuis sa naissance. Et Paul lui dit de se lever, et il se lève et il marche. Et alors quand les habitants de la ville voient ce miracle, eh bien tout de suite, eux concluent que ce sont des dieux qui sont venus les voir. Et donc très vite, ils sont prêts à les adorer, ils ont amené des bœufs et puis ils veulent les sacrifier. Et alors c'est en voyant cela que justement dans Actes chapitre 14, verset 15, Paul et Barnabas s'écrient en déchirant leurs vêtements et disent « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Il dit « Nous sommes des hommes de la même nature que vous. On n'est pas des dieux. » Ben oui, mais tu viens de guérir quand même. Ah oui, mais ça ne change rien de ce que nous sommes. Ça, c'est la puissance de Dieu qui agit. Ça, c'est une chose. Mais nous sommes des hommes comme vous, pareil. Hein, nous devons toujours nous souvenir, il y a l'enfant de Dieu, le chrétien, il est toujours un homme de même nature que ce qu'il était et tous ceux qui sont autour de lui. Et tant que nous sommes sur terre, ce n'est qu'à la résurrection, quand on sera transformé, alors là, ça sera autre chose. Mais pour l'instant, eh bien, nous sommes des hommes de même nature. Élie est un homme de même nature que nous. Et Paul, même s'il a pu faire un miracle semblable à ceux de Jésus, mais il a dit, mais nous sommes des hommes de même nature que vous. On est faibles comme vous. Ne nous faites pas de nous ce que nous ne sommes pas. Et donc, souvenons-nous qu'Élie, c'est un homme comme nous. Et ce qu'il ressent, c'est ce que nous pouvons ressentir dans des situations pareilles. Et donc, ce que nous voyons ici dans 1 Roi 19, c'est que l'Éternel va aller parler à Élie au fond de sa grotte. Hein, c'est là où il a été, mais l'Éternel ira le chercher jusqu'au fond de la grotte et lui parlera. Hein, c'est, voyez, le, donc 1 Roi 19, verset 9, il dit, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie ? C'est pas. Il dit, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu te trouver là où tu es. Je suis arrivé là. Qu'est-ce que tu fais là ? Alors, c'est pas parce que c'est là que Dieu va lui parler. Et en fait, avant la fin du chapitre, eh bien, Dieu va lui dire, écoute, j'ai un ministère pour toi, et en fait, un ministère plus grand que ce qu'il a fait jusque-là. C'est-à-dire, ce qui va suivre ce chapitre 19, et ce que Élie fera, ce sera plus grand, plus extraordinaire que ce qu'il a fait jusque-là. Chez les hommes, quelqu'un tombe, eh bien, c'est terminé. On dit, bah, écoute, toi, tu as gâché ta vie. Pour Dieu, il a dit, mais tu n'étais pas grand-chose à l'origine, et puis tu n'es toujours pas grand-chose, mais moi, je peux faire des grandes choses avec toi. Hein? Donc, ce n'est pas à nous de décider quand notre utilité est terminée. Hein? C'est nous appartenons à Dieu. Et ce n'est pas parce que nous sommes tombés que nous ne pouvons plus servir. Hein? Donc, on trouve ici des paroles d'encouragement. Hein? Ce n'est pas parce que je me suis déçu, ce n'est pas parce que même j'ai déçu le Seigneur une fois, ou j'ai déçu le pasteur, ou j'ai déçu les autres chrétiens, peu importe tout cela. Le Seigneur dit, mais c'est pas toi qui décides quand c'est terminé, c'est moi qui décide. Et si je veux t'utiliser, je t'utiliserai. Parce que ce n'est pas ce que tu apportes à la chose qui fait quelque chose, c'est ce que moi j'apporte à ce ministère qui en fait une bénédiction pour les autres. Et c'est important pour nous de nous rendre compte que nous ne sommes que des récipients. Mais ce qui peut se faire d'utile à travers de nous, eh bien, c'est l'œuvre de Dieu. Et ici, Dieu dit à Élie, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Et là, tout d'un coup, Élie va parler. Il va dire, en fait, tout ce qu'il y a dans le cœur. Et regardez au verset 10. Donc, 1 Roi 19, au verset 10, il dit... Et il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie.
Ah, c'est pour ça. Ben oui, avec des pensées pareilles, c'est sûr que c'est pas étonnant. Hein, tout d'un coup, parce que tu as paniqué en entendant les paroles de Jézabel, et maintenant tout d'un coup, il y a des pensées qui sont développées chez toi, et tu as pris des éléments, et en fait, des éléments qui sont, certains sont vrais, d'autres ne sont pas vrais, hein, comme on verra. Mais Dieu dit, que fais-tu ici? Parce que, en fait, tous les prophètes ne sont pas morts. Hein. On a vu dans le chapitre 18, Abdias, il a dit, et moi, j'ai caché les prophètes et je les ai nourris. Et il savait que, parce qu'Abdias le lui a dit, hein, donc il savait qu'ils ne sont pas tous morts et tous n'ont pas été. Et puis, il dit que c'est tout le monde cherche à me tuer. En fait, il n'y a que Jézabel qui cherche à le tuer. Hein, donc, il exagère la chose et vous savez, des fois, on se dit des mensonges et on se fait peur. Hein, ça, peut-être pas vous, mais à moi, ça m'est arrivé. Mais on se dit des choses et puis l'imagination, elle part et c'est extraordinaire. Hein. Je vais faire référence à enfant, comme ça on ne se sent pas trop vexé. Mais vous savez, un enfant tout seul dans sa chambre, dans le noir, et puis il entend un petit bruit. Et ce petit bruit, tout d'un coup, il imagine un voleur qui rentre, il imagine un monstre, il y a un monstre sous mon lit, et puis c'est la panique, et alors que c'est rien du tout, hein, et l'imagination part, et là, Élie est parti là-dedans, et nous aussi, nous pouvons, même spirituellement, et des fois, il y a des chrétiens qui arrivent, ils commencent à écouter les informations, tout d'un coup, ils voient une catastrophe terrible, comme si Dieu n'existait plus, et ils se demandent où va ce monde, et tout cela, et c'est la panique terrible. Il dit, calme-toi. T'occupe pas de tout cela. Occupe-toi seulement de la relation entre nous deux. C'est tout ce qu'il te faut. Et ce prophète Élie, qui, là, au fond de sa caverne, c'est le Élie qui va paraître avec Moïse sur la montagne de Transfiguration. Hein, donc, vous voyez comment c'est Dieu, c'est pas parce qu'il était au fond de la caverne qu'il est plus utile. Dieu a un grand respect pour lui. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans l'Ancien Testament. Il nous donne assez de détails durs sur certains hommes pour finalement nous dire combien Dieu, eh bien, il arrive à regarder et pardonner tout ça. Et pour voir ce qu'il y a d'utile dans notre vie. On est toujours étonné de trouver Samson, par exemple, dans le livre dans Hébreux 11. Hein, on lui dit, comment, Samson, un homme de foi? Eh oui, mais Dieu a pu, au lieu de regarder les quelques détails que nous avons sur Samson, Dieu a regardé les 20 ans de ministère qu'il a eu. Vous savez, c'est ça le problème chez nous. On voit toujours le point noir sur la feuille blanche, au lieu de voir la feuille blanche autour du point noir. Hein, et nous regardons ces choses, et nous le faisons avec nous-mêmes, nous le faisons avec les autres, mais sachant que Dieu sait regarder à toute la feuille. Hein, et prend soin, et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'apprendre à regarder comme lui regarde aussi. Quand on se regarde les uns les autres, de voir ce que Dieu a fait. Non pas ce que j'ai fait, mais regarder à ce que Dieu a fait en moi. Et donc, nous sommes de la même nature qu'Élie, et lorsque notre attention est accaparée par les circonstances et les événements qui nous entourent, eh bien, nous pouvons nous retrouver dans une grotte et être neutralisés dans notre marche avec le Seigneur. Mais nous devons lever les yeux et nous tourner nos pensées vers le Seigneur, vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, celui qui nous a pris en charge, qui a dit, moi je t'ai pris où tu es, et j'ai de grands projets pour toi, je m'en vais vous préparer une place, j'ai quelque chose d'extraordinaire. C'est ça que je dois me souvenir, c'est pas ce que les autres pensent de moi, c'est ce que le Seigneur pense de moi. Et puis alors, Élie, le prophète, il parle de cette manière-là. Et vous savez, au verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le dit l'Éternel en réponse? Eh bien, il dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Il dit, toi, écoute, tu as besoin de me regarder. Sors de ta grotte et regarde-moi. Laisse-moi te parler. Et c'est là le moyen de sortir, c'est de tourner les yeux vers le Seigneur. Lorsque tout semble s'écrouler autour de moi, ben je regarde vers le Seigneur et tout d'un coup, je vois le monde, je le vois autrement. Et Élie va sortir à l'entrée de la grotte, là, et puis il va regarder, il y aura le tremblement, ça ne va pas l'affecter. Il va voir le feu, ça ne va pas l'affecter. Il va voir le vent fort. Mais après, il entendra un murmure doux et léger. Et le murmure doux et léger, ça va aller jusqu'au fond de son cœur. Il n'est pas impressionné par ni le vent, ni le feu, ni le tremblement, mais le murmure doux et léger. Vous savez comment Dieu parle, hein, il parle au cœur. Dieu aurait pu le gronder en utilisant une voix de tonnerre, mais c'est un murmure doux et léger. Mais c'est une parole qui est remplie d'espoir, d'espérance. Et lui, il va quand même répéter là au verset, parce que Dieu va encore lui dire à l'entrée de la caverne, il va lui dire au verset, à la fin du verset 13, il dit, mais que fais-tu ici, Élie? Et Élie va répondre, parce que son disque, il est un peu rayé, et il va dire, oh, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Tellement il se l'est répété qu'il arrive à répéter les mêmes paroles. Et vous savez, verset 15, qu'est-ce que dit l'Éternel? L'Éternel dit, va, reprends ton chemin. Va, reprends ton chemin. Écoute, il dit, lève-toi, t'occupe pas, abandonne ses pensées. Moi, j'ai du travail, on reprend la route. Il va devoir partir depuis Horeb, il doit repartir. Il dit, reprends ton chemin, il va jusqu'à Damas. Damas, ça, c'est tout à fait au nord. Tout à fait de l'autre côté. Il dit, tu repasses tout le territoire, tu traverses le territoire de Jézabel, tu continues. Écoute, moi, je t'envoie, reprends ton chemin. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Il dit, non, écoute, le train déraille, eh bien on le remet sur les rails, on ne jette pas la ferraille. Hein, on le remet sur les rails et puis on reprend la route. Hein? Et quand Dieu nous parle, c'est pour toujours nous communiquer de l'espérance. Et peu importe dans quel état nous nous trouvons, il nous prend de là où on est. Il ne me dit pas, écoute, nettoie-toi, remets-toi en ordre, retrouve ta santé, puis après viens me parler. Non, non, il dit, je te prends de là, et on repart. Et il va partir, et on pourra lire la suite de la vie d'Élie, ça sera tout autre chose. Parce que Dieu dit, va, reprends ton chemin. Et puis, vous voyez, à la fin du verset, le verset 18, et il lui rappelle, il dit, écoute, tout ce que tu as pensé, c'était faux. Hein. Il dit, regarde, mais je laisserai en Israël 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Il dit, Yannas, toi, tu croyais que tu es le seul. Il y en avait 7000. Il dit, écoute, tu hein, que, il nous dit dans Philippiens 4, 8, il dit, tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Ne nous disons pas des mensonges. On n'aime pas quand les autres nous en disent, mais ne nous en disons pas nous-mêmes, parce que c'est ça qui... C'est, les mensonges des autres, ils nous perturbent un petit peu, mais ce que nous nous disons, ça peut vraiment perturber notre vie. Et il dit, t'occupe pas. C'est un peu ce que Jésus disait à Pierre. Vous vous rappelez, quand un jour, Pierre, il est allé à la pêche avec six autres disciples. Et puis Jésus est là le matin, et Pierre, ils n'ont rien pris sur la mer. Et Jésus dit, viens les voir. Et puis, il lui parle, il dit, m'aimes-tu, et tout ça, hein, dans Jean, chapitre 21. Mais arrive un moment où Jésus dit à Pierre, il dit, écoute, tu sais, je vais te dire, il t'arrivera le jour, pour l'instant tu es fort et tout, mais t'arrivera le jour, c'est que tu seras lié. Et alors, quand tu seras vieux. Et alors, Pierre, il voit venir Jean, et puis il dit, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit, t'occupe pas. Peu importe ce qui arrive à Jean, peu importe à ce qui arrive à l'autre, toi, et c'est ça que Jésus lui dit au verset 22, hein, Jean 21, 22, il dit, toi, suis-moi. Il dit, t'occupe pas de ce qui arrive à l'autre, toi, suis-moi. Mets tes yeux sur moi et suis-moi. Et c'est ce que le Seigneur veut. Et c'est la seule manière dont nous pouvons, si nous ne voulons pas avoir une expérience du type Élie dans la grotte, eh bien, c'est de garder les yeux sur le Seigneur. Rester branché sur le secteur. Hein, et pour qu'on n'arrive pas à un point où on est tellement vidé qu'on ne peut, on peut même pas tenir debout. La question ce matin, c'est est-ce que le Seigneur me dit, que fais-tu là? Hein? Le Seigneur sait, et chacun de nous, on est là quelque part, et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est là que je t'ai dit d'aller? Est-ce que c'est moi qui t'ai conduit ici? Il dit, mais écoute, d'accord, on part d'ici et reprend la route. Parce que tu peux être utile, et je veux, et j'ai des projets pour toi. Alors ne reste pas là au fond de ta grotte, ne reste pas là à penser des pensées qui te détruisent, mais lève les yeux, regarde vers le Seigneur, puise en lui tes forces, et laisse-toi conduire par lui, et t'occupe pas de ce qui se passe ni dans le monde, ni des autres. C'est pas, je ne dis pas qu'on doit être inconscient, tout ça, mais c'est pas ça qui gère ma vie. Moi, c'est ce que le Seigneur veut de moi, et je vais vivre pour lui. Et je peux être cet arbre verdoyant au milieu du désert. Dans le nord du Mali, il y a un arbre célèbre. Il était là pendant longtemps. C'était le seul arbre au milieu du désert. Et il était célèbre. Parce qu'il était le seul, tout seul, tout le reste, c'était du sable. Bon, finalement, il y a quelqu'un qui a réussi à le rentrer dedans avec sa voiture et le tuer. Mais vous savez, peu importe le climat autour, que je sois cet arbre verdoyant. Pourquoi? Parce que les racines puisent dans un cours d'eau. Et c'est ce que nous avons besoin pour notre vie. Et nous ne pouvons pas, nous sommes, Élie, c'était un homme de même nature que nous, et donc ce qui lui est arrivé peut nous arriver, et sans qu'on se rende compte. Jusqu'à ce que c'est, je ne dis pas trop tard, mais c'est très avancé. Que le Seigneur nous aide, et nous allons prendre ce temps de, là, peut-être que le Seigneur, quelque part dans tout cela, eh bien le Seigneur vous a parlé de quelque chose, et donc nous allons prendre un moment de silence, et vous pourrez... dire ce que vous avez à dire au Seigneur et lui dire, écoute Seigneur, je te demande pardon, Seigneur aide-moi, Seigneur préserve-moi, je renouvelle ma résolution de rester attaché à toi. Peu importe, mais vous avez votre prière et puis ensuite je vais prier.